Deux ans après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est donc de nouveau frotté au verdict des urnes avec les élections de mi-mandat, les midterms. Vote sanction ou plébiscite, c'était l'enjeu de ce scrutin. Les résultats sont en train de tomber, nous allons les analyser avec vous. Maryl Cécinave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis en général et de Trump en particulier. Alors, on sait que les républicains perdent la Chambre des représentants, mais dans le même temps, Donald Trump parle d'énormes succès. Alors, c'est quoi, une victoire ou une défaite ?
Oui, on s'attendait à ce que, quel que soit le résultat, il parle de succès.
Il soit content.
Oui, on est habitué à voir la réalité des faits et puis l'opinion sur la réalité des faits, une distorsion un peu. Ceci dit, c'est pas complètement une défaite pour lui ce soir parce que le Sénat reste du côté républicain, sans doute avec, c'est avéré même, je crois, un gain de siège. Trump a fait énormément de meetings. Vraiment, c'est un président qui s'est engagé de manière inédite dans une campagne des midterms, en particulier sur les élections sénatoriales. Donc, on peut raisonnablement penser, et il s'en réclamera, que la victoire des républicains au Sénat et le renforcement de leur poids soit en partie grâce à la campagne de Trump. Donc, c'est aussi une victoire pour lui et qu'il va sans doute construire en storytelling d'une victoire personnelle. C'est très important pour la suite, pour les deux années qui viennent, parce que du côté de la Chambre, il va être mis en grande difficulté.
Alors justement, la Chambre, on n'a pas encore tous les résultats. C'est lourde défaite ou finalement elle est à la mesure de ce qui arrive à quasiment tous les présidents à mi-mandat, hein. Ils perdent généralement, la majorité se retourne.
Oui, c'est un classique de perdre une voire deux chambres dans les mi-temps pour le président en place. On ne sait pas encore quelle va être l'ampleur de la victoire des démocrates. Pas de vague bleue comme on l'anticipait il y a quelques semaines, mais sur laquelle les observateurs, les sondages et la presse américaine était revenue. On savait qu'il n'y aurait pas de vague bleue, mais ça peut être un gain quand même significatif. Hein. En termes de conséquences, ça va être compliqué pour le président. En plus, c'est Nancy Pelosi qui est réélue, qui va prendre le poste de speaker, donc ça fait un gros contraste avec son prédécesseur Paul Ryan.
Veut dire quoi? Est-ce qu'on peut parler, comme on le fait en France, de cohabitation ou ça n'a rien à voir aux États-Unis?
Oui, on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a un checks and balances, l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et Nancy Pelosi va redonner son rôle de contre-pouvoir de la Chambre des représentants par rapport au pouvoir exécutif de Trump. Et en termes d'agenda, ça va être, on a toutes les chances que l'agenda du président soit bloqué, très compliqué.
Ça veut dire quoi? Plus aucune réforme ne passe d'ici la fin de son mandat?
En tout cas, par la voie législative, plus aucune peut-être pas, mais enfin, sur des gros sujets de l'agenda pour les deux années à venir, à savoir, enfin, la réforme de la législation sur l'immigration, et notamment sur l'immigration illégale, sur les Dreamers, ces jeunes qui sont arrivés mineurs aux États-Unis et auxquels Trump a supprimé le statut légal que Obama leur avait accordé. Ça va être compliqué. Et puis, je crois aussi sur la question de la protection sociale, parce qu'on sait que la santé a été un thème de préoccupation important pour les électeurs dans ces élections, à droite comme à gauche, là-dessus, on peut penser encore d'ailleurs que Trump va devoir s'adresser dans les deux années à venir à un électorat populaire, défavorisé, qui a été un des grands perdants de sa politique jusqu'ici en termes fiscaux, en termes de choix budgétaires, d'agenda.
Parmi les électeurs de Trump en 2016, il y a des personnes qui aujourd'hui le regrettent à cause de ce qu'il a fait sur l'Obamacare, qui se disent eh ben finalement l'assurance maladie c'est pas mal, j'en avais besoin, j'aurais pas dû voter Trump, c'est ça?
Oui, absolument. On va voir les sondages affinés de sortie des urnes. Mm-hmm. Il sera très intéressant de voir comment l'électorat défavorisé qui avait voté Trump en 2016, s'est positionné là, même si c'est quand même d'abord un électorat qui s'abstient et qui continue de voter majoritairement démocrate. Il ne faut pas croire que tous les pauvres ont voté Trump en 2016. C'est pas vrai, ça reste un électorat majoritairement démocrate, mais il avait fait une poussée très importante par rapport à Mitt Romney en 2016. Et là, il y a des déceptions sur la peur de perdre son assurance santé, parce qu'il a détricoté tant qu'il a pu l'Obamacare, mais sans remplacer par autre chose. Donc il y a une inquiétude. Mmh. il y a des inquiétudes aussi sur ce qui va être décidé en termes de protection sociale. Et donc, cet agenda vis-à-vis de cette population-là dont il peut avoir besoin en 2020 va être très compliqué avec avec une chambre démocrate. Et deuxième grosse difficulté pour lui, et on va le voir déjà, je pense, dans les jours à venir et dans les semaines à venir, un certain nombre d'enquêtes vont être engagées par la Chambre des représentants contre lui, avec, on peut le penser, une chambre qui va exiger la déclaration fiscale de Donald Trump, qui jusqu'ici s'était refusé à la donner et le Congrès lui avait pas demandé.
Pour revenir sur ce que vous disiez sur la santé, l'immigration, ça veut donc dire que ce scrutin qui apparaissait comme un référendum pour ou contre Trump, sur, il n'y a pas que sa personnalité qui a joué, il y a quand même le bilan de ses deux premières années de mandat.
Oui, sans doute. Oui, sans doute. Ça reste, je crois, le référendum pour ou anti-Trump est quand même au cœur de cette élection, les premiers éléments qu'on a. Et quand on
voit aussi, il n'y a pas que la forme, il n'y a pas que le personnage qui peut gêner.
Absolument. Oui, je suis d'accord. Quand on entend parfois dire que Trump a tenu ses promesses, ça dépend pour qui. Pour le big business, oui, il a tenu ses promesses. Pour les oubliés, entre guillemets, de l'Amérique, comme il les appelait, pour les plus démunis, pour ceux qui se sentent menacés par la disparition de l'industrie américaine, qui sentaient que leur pouvoir d'achat baissait, que ceux qui n'ont pas de salaire minimum, ceux qui sont obligés de cumuler les petits jobs pour vivre, sont les grands perdants, parmi les grands perdants de la politique de Trump. Parce que certes, il y a un chômage qui est très faible, certes, il y a une forte croissance, mais il y a des millions et des millions d'Américains qui sont sortis des statistiques du chômage et qui n'ont plus rien, ou qui ont un emploi mais très très faiblement payé. Donc ceux-là, ils en veulent un peu à Trump.
Marie-Cécile Nave, est-ce qu'on a le chiffre de la participation ? D'habitude, pour ce genre d'élection, c'est plutôt faible, hein, c'est 35-40% de participation, on le connaît ou pas ?
Alors, il semblerait qu'elle soit plus importante que d'habitude. Effectivement, on est autour de 40% d'habitude pour les midterms. Il semble qu'elle soit plus importante. On avait des indicateurs avec le early voting, le vote anticipé, mais il faut être prudent parce qu'en 2016, il y avait eu aussi un important early voting et finalement une forte abstention. Il semble que la participation soit plus importante. On va voir dans les heures qui viennent ce qu'il en est. Et surtout, qui est allé voter ? Est-ce que les jeunes sont allés voter ? Est-ce que les latinos sont allés voter ? Puisque ce sont deux catégories de population qui étaient difficiles à mobiliser, et en particulier dans les midterms. Et sans doute que du côté démocrate, on a été très, très mobilisés chez les femmes, chez les jeunes, mais c'est à affiner dans
les heures qui viennent. C'est ce que j'allais dire, on le voit à travers les candidats proposés par le Parti démocrate et par le résultat donc à la Chambre des représentants. On a une chambre qui correspond un peu plus, qui porte bien son nom, qui représente finalement un peu plus maintenant la population américaine.
Oui, avec l'entrée de sans doute de beaucoup de femmes du côté démocrate, même si toutes celles qui se présentaient n'étaient pas en position facilement éligible, mais on a des entrées assez symboliques comme Lauren Underwood qui gagne en Illinois, qui est une novice en politique et africaine-américaine, qui est infirmière, et donc c'est un bastion illinois qui est mis à mal, un bastion républicain, pardon, illinois qui est mis à mal par cette poussée relative démocrate. Deux femmes musulmanes qui entrent au Congrès, Rashida Tlaib et Ilhan Omar, qui est voilée, qui assume son identité musulmane. Oui, et d'autres encore, des Native Americans aussi qui vont entrer à la Chambre des représentants. Alors, même si c'est pas une vague issue de la diversité, c'est quand même ultra symbolique par rapport à une plus grande représentativité de la société américaine dans cet endroit qui est plutôt tenu par les hommes blancs.
Et on voit donc que les lignes bougent aussi en interne au sein des démocrates. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, politologue, spécialiste des États-Unis. Et vous allez sortir un livre en janvier prochain sur Donald Trump. Trump, la revanche de l'homme blanc.
Non, il est sorti en janvier 2018.
Ah, il est déjà sorti, oui. On m'avait dit en janvier prochain.
Non, il est déjà sorti.
Bon, va falloir rajouter un chapitre avec le résultat. Merci beaucoup, il est 6h28.